5h09.
Chapitre 92. Ambre gris.
Cette ambre gris est une substance très singulière. C'est aussi une marchandise si importante qu'en 1791, un certain capitaine Coffin, originaire de Nantucket, fut interrogé sur le sujet par la Chambre des communes. Car à cette époque, l'origine exacte de l'ambre gris, tout comme celle du succin, était une énigme pour les savants. Elle est d'ailleurs restée jusqu'à une date relativement récente. Le terme « ambre gris » est un composé français qui désigne tout autre chose que l'ambre. Ce dernier, en effet, bien qu'on le trouve parfois sur les rivages, s'extrait surtout des sols à l'intérieur des terres, tandis que l'ambre gris ne se récolte que dans le monde des eaux. En outre, l'ambre est une matière dure, transparente, friable et inodore, dont on fait des tuyaux de pipe, des chapelets et des colifichets. L'ambre gris, lui, est ductile, comme la cire, et dégage un arôme si puissant qu'on l'utilise généreusement dans la parfumerie, ainsi que dans la confection des pastilles à brûler, bougies de luxe, poudre à cheveux et pommades. Les Turcs en font usage dans leur cuisine et en emportent à la Mecque pour la même raison que d'autres pèlerins emportent de l'encens à Saint-Pierre de Rome. Certains marchands de vin en jettent quelques grains dans le clairet pour en rehausser le bouquet. Qui donc pourrait imaginer que tout ce beau monde ferait ces délices d'une essence qu'on recueille dans les entrailles, répugnante d'une baleine malade? C'est pourtant le cas. Certains tiennent l'ambre gris pour la cause, d'autres pour l'effet de la dyspepsie du cachalot. Comment guérir pareil trouble de la digestion? On ne voit guère de solution sinon l'administration de la valeur de 3 ou 4 pirogues de pilules de brandrette, après quoi il ne resterait qu'à courir se mettre à l'abri, comme les ouvriers qui font sauter les rochers. J'ai oublié de dire qu'on avait trouvé dans cet ambre gris des sortes de jetons ronds, durs, d'apparence osseuse. Stubb pensa d'abord qu'il pouvait s'agir de boutons de culotte de marin, mais ils se révélèrent plus tard n'être que des fragments d'os de calmar ainsi embaumés. Mais découvrir la fragrance ininterrompue de l'ambre gris au cœur d'une telle putréfaction, n'y a-t-il pas là quelque chose d'extraordinaire? Songez à ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au sujet de la corruption et de l'incorruption. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Rappelez-vous en outre ce passage dans lequel Paracelse explique ce qui fait le meilleur musc. Enfin, n'oubliez pas que, de toutes les choses malodorantes, l'eau de Cologne, curieusement dans les premiers stades de sa fabrication, est la pire. J'aurais aimé conclure ce chapitre sur les prières formulées ci-dessus, mais ne le puis tant me presse le souci de réfuter une accusation, souvent portée contre les baleiniers et qui, certains esprits prévenus, pourraient trouver une confirmation indirecte dans ce qui a été dit les deux baleines du français. Nous avons déjà fait, dans le présent volume, un sort à la thèse calomnieuse selon laquelle le pêcheur de baleines exercerait un métier parfaitement dégoûtant et malpropre. Il reste une dernière lance à rompre. On laisse entendre que les baleines sentent toujours mauvais. Quelle est l'origine de cette odieuse flétrissure? J'incline à croire qu'on peut la dater précisément de l'arrivée à Londres des premiers navires baleiniers du Groenland, il y a plus de 2 siècles, car ces pêcheurs ne fondaient pas alors, pas plus qu'aujourd'hui, leur graisse en mer comme l'ont toujours fait les bâtiments des mers du Sud, mais découpaient le lard frais en petits morceaux qu'ils fourraient par la bande dans d'énormes barils. C'est sous cette forme qu'ils le ramenaient chez eux, la brièveté de la saison dans ces eaux glaciales et la violence et la soudaineté des orages auxquels ils étaient exposés, interdisant qu'on procédât autrement. De sorte que l'on pénètre dans la cale et que l'on décharge par les cimetières de baleines dans les docks londoniens réservés aux bâtiments de la pêche arctique, il s'en dégage une exhalation assez semblable à celle qui monte des déblais d'une ancienne nécropole où l'on creuse les fondations d'une maternité. Je soupçonne également que cette méchante accusation portée contre les pêcheurs de baleines peut s'expliquer par l'existence, à une époque ancienne, d'un certain village hollandais situé sur la côte du Groenland et nommé Smeerenburg ou Smeerenburg. Cette dernière dénomination étant celle qu'emploie le très érudit Fogo von Slack dans son grand ouvrage sur les odeurs, un maître livre en la matière. Comme l'indique son nom, Smeer, Grèce, Berg, montagne. Ce village fut fondé pour servir d'entrepôt au lard de la flotte hollandaise qui était fondue sans qu'il fût besoin de le ramener en Hollande pour ce faire. On n'y voyait rien d'autre que fourneaux, chaudières et hangars à huile, et quand les opérations battaient leur plein, les odeurs répandues n'étaient sans doute rien moins que plaisantes. Mais il en va tout autrement avec un navire cachalotier des mers du Sud qui, au cours d'un voyage qui pourra durer 4 ans, et avec une cale remplie d'huile, ne consacre guère plus de 50 jours à fondre le gras. Et l'huile, ainsi mise en baril, est à peu près inodore. La vérité est que, vivantes ou mortes, ou pour peu qu'on les traite convenablement, les baleines, considérées en tant qu'espèces, ne sont aucunement des créatures malodorantes. Quant aux chasseurs de baleines, ils ne se reconnaissaient pas plus à leur odeur qu'un juif en société, comme on voulait le croire au Moyen-Âge. En réalité, on a du mal à imaginer que l'odeur qu'exhale le cachalot puisse être autre que suave, quand on sait que sa santé est, en général, excellente, qu'il prend de l'exercice en abondance, toujours dehors, même s'il est vrai que l'on voit rarement en plein air. J'assure que les palmes du cachalot, lorsqu'il les agite au-dessus de l'eau, ne répandent pas moins de senteur que la robe froufroutante d'une dame parfumée au musc dans un salon bien chauffé. À quoi pourrais-je bien comparer le cachalot pour ce qui est de la fragrance, vu l'énormité de sa taille ? Ce ne peut être qu'à ce fameux éléphant que l'on fit sortir d'une cité des Indes, les défenses ornées de bijoux et tout frottées de myrrhe pour honorer Alexandre le Grand.